Que tu le connaisses déjà ou que tu viennes de le découvrir, je te souhaite bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast qui explore le haut potentiel pour t'aider à mieux vivre le tien. Donc je te rassure, Sylvie n'a pas pris d'hormones mâles, c'est Sylvain au micro et tu as peut-être déjà reconnu ma voix, tu m'as entendu sur les épisodes 3 et 33. Cette semaine, j'ai attrapé le micro de Sylvie, je l'ai retourné et c'est moi qui lui pose des questions. Donc tu vas découvrir son parcours de haut potentiel, de surdoué, mais aussi ce qu'elle faisait plus petite, ce qu'elle faisait en étant un peu plus grande dans les soirées nantaises, et surtout ce qu'est la suite de ce podcast, car elle a décidé d'en changer un peu le format. Je te souhaite une très belle écoute et j'espère que le plaisir que tu vas prendre sera aussi important que celui qu'on a eu, Sylvie et moi, en ayant cet échange. Installe-toi confortablement, ça commence tout de suite.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Sylvain.
Enchanté de t'avoir sur ton podcast. Ça fait très plaisir. C'est une petite idée qu'on a partagée l'année dernière et qui se réalise en 2024. Donc, je suis très content de te voir. Alors, eux ne te verront pas, mais moi, je te vois. Et j'ai envie de commencer par la première question. On a tous envie de te découvrir. Qui était la petite Sylvie?
Alors, déjà, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à ceux qui vont nous écouter. Déjà, je te remercie en fait pour ta proposition avant de répondre à ta question. C'est vrai que tu es intervenu deux fois dans le podcast et tu m'as proposé spontanément d'intervertir les rôles et de faire une interview,
retournée.
Oui, c'est ça, exactement, on va dire ça, une interview retournée. Bon, en fait, c'est moi qui prends la place de l'invité, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je suis ravie de jouer à ce jeu-là, avec toi en plus. La petite Sylvie, oh là 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 là, j'aime pas trop me connecter à ça en fait, parce que la petite Sylvie, elle était pas super super heureuse. D'abord, okay. Elle a jamais été trop petite, déjà, pour commencer. Ouais. Parce que moi j'ai l'impression d'être née déjà avec alors c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais avec une mentalité d'adulte presque, où déjà avec ma mère les rôles étaient inversés, donc c'est moi qui ai dû prendre soin de mon frère et prendre soin de ma mère aussi, qui n'était pas capable de prendre soin d'elle-même, et je voyais beaucoup de choses qui n'allaient pas aussi dans le monde. J'étais très angoissée, c'était pas le top en fait. Okay. J'avais qu'une envie, c'était d'être grande et de pouvoir faire ma vie, d'être libérée de tout ce qui m'empêchait. Je trouvais que le rôle d'enfant était super ingrat parce que on était très très limité. Je voyais bien pourquoi, si tu veux, matériellement, mais je trouvais ça très injuste. Moi, je serais bien partie à 8 ans. Je me serais bien barrée, en fait, tu vois, de chez moi pour faire ma vie. Mais c'était pas possible. Donc, okay. Donc voilà.
Ok. Donc, en fait, de ce que je comprends, t'étais grande dans la tête, mais encore petite dans le corps. Donc, tu pouvais pas prendre ta liberté. Ouais. Tu aurais bien pris ton baluchon pour partir. Et si t'étais partie, tu serais partie où alors?
Aucune idée. Il y avait un pays qui m'attirait beaucoup. C'était l'Égypte.
Okay.
Mais c'était plus parce qu'il y avait la mythologie, enfin toute l'histoire de ce pays que je trouvais absolument fascinante et qui m'intriguait. Après, j'avais aucune idée de ce que ça peut être l'Égypte d'aujourd'hui, tu vois. Donc, c'était une vue d'enfant quand même, finalement.
Ok. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, tu as vu les pyramides?
Non.
Pas encore?
Non, j'y suis pas allée. Je suis plus certaine d'avoir aussi envie, tu vois, autant envie d'y aller que quand j'étais enfant.
Ok.
Mais je dis pas, peut-être un jour, mais ce serait plus la priorité sur ma liste des destinations que j'aurais envie de voir.
Ok. Bon, en tout cas, ce que tu décris là, et tu as l'impression que ça paraît prétentieux, mais je crois que c'est beaucoup de HP l'ont eu, ce sentiment d'être coincé dans un corps d'enfant avec peut-être une mentalité, une sagesse. Alors, je ne sais pas si on peut dire sagesse, mais en tout cas, une impression de comprendre un peu mieux les adultes qu'eux-mêmes ne se comprennent. Et ce détournement de poste, à savoir de rôle, à savoir de prendre soin de quelqu'un qui ne va pas forcément bien, alors que ce n'est pas notre rôle, alors que je suis sûr qu'à certains moments, tu avais le sourire. Quand tu avais le sourire, est-ce que tu te rappelles des petits jeux ou des choses que tu faisais?
Alors, j'ai des souvenirs en particulier que j'ai beaucoup aimés. Ce sont les souvenirs sur le bateau de mon grand-père.
Ok.
Voilà. Et d'ailleurs, depuis le mois de septembre, je suis en train d'apprendre à naviguer. Donc, je pense qu'il y a, tu vois, un lien. Je suis en train de réaliser un de mes rêves où, en fait, mon grand-père avait un voilier. On y a passé beaucoup de temps. J'ai vraiment adoré ces moments-là. Ça, il y avait une vraie sensation de liberté. J'aimais beaucoup me mettre à l'avant du bateau. Mais par contre, il a arrêté avant que j'aie le temps d'apprendre. Et j'étais restée sur cette frustration qu'il n'y ait pas eu de transmission avec lui autour de ça. Et donc là, je suis en train de m'atteler à cette tâche.
Ok. Est-ce que tu feras comme dans le Titanic? Alors, les auditeurs le voient pas, je suis en train de lever les bras ciel et de faire...
Pour l'instant, j'apprends à pas finir à l'eau et c'est déjà beaucoup, tu vois.
Donc voilà. En tout cas, la voile... Enfin, le bateau, ouais. La navigation, c'est quelque chose qui t'attire. Et comme il est toujours suffisamment tôt pour s'y mettre, bah, tu t'y es mise. Est-ce que tu as d'autres bons souvenirs comme ça qui reviennent de cette enfance et des choses que tu aimais faire? Peut-être des jeux que tu aimais faire? Des livres que tu aimais lire?
Des livres que j'aimais lire. Moi, la lecture, j'ai commencé à l'aimer vers 8 ans. Et c'est ma grand-mère qui m'avait offert toute une série de livres de la comtesse de Ségur.
Ok.
Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à apprécier la lecture. Après, avec le recul aujourd'hui, bon, je me dis que c'était pas forcément des livres extraordinaires, mais depuis, j'aime beaucoup lire. J'aime les livres et j'aime beaucoup lire. C'est pas rare que j'ai 2 à 3 livres ouverts en même temps. Ça me dérange pas trop de passer de l'un à l'autre. Sauf quand l'histoire est vraiment compliquée avec beaucoup de personnages et ou très très prenante où là j'ai envie d'arriver au bout du livre. Mais donc la lecture et puis les balades aussi dans la nature. On habitait dans le sud de la France jusqu'à mes 11 ans à peu près, j'habitais à Marseille et avec ma mère on allait se balader dans les Calanques.
OK.
Et voilà, c'est à la fois les montagnes, les falaises, la mer, la Méditerranée. Ça, c'est des très bons souvenirs.
Ok. Bon, moi, ça fait plaisir qu'on se reconnaît la petite Sylvie et celle qui faisait des trucs sympas.
Oui.
Là, on va avancer, faire un petit...
Ouais.
La moyenne. La moyenne Sylvie, elle était comment?
La moyenne Sylvie, donc tu l'envisages quoi?
Je sais pas,
lycée.
Dis-moi.
Lycée,
c'est pas mal.
Ouais.
Lycée, c'est pas mal.
La moyenne Sylvie, elle était, plus à l'aise en société, avec des notes dans la moyenne, voilà, correct. Pas mal entourée, avec beaucoup d'amis, un cercle assez important pour moi, autant des amis garçons que filles, des sorties, beaucoup de sorties. Il fallait vraiment que je m'amuse, que je sorte, que je décompresse, que je passe du temps à l'extérieur. Et puis voilà, en fait. Assez rebelle aussi.
Assez rebelle.
Ouais. J'ai des souvenirs de prise de tête avec notamment mon prof de sport. Parce que dès que je voyais quelque chose qui me semblait incohérent, j'avais du mal, en fait, à le supporter.
Okay.
Donc il fallait que je le dise. Évidemment, ça plaisait pas toujours. Aujourd'hui, je me rends compte. À ce moment-là, j'avais pas le même recul.
Est-ce qu'on retrouve des thèmes récurrents, à savoir le problème à l'autorité et la notion de justice ou d'injustice, ça dépend dans quel sens tu prends?
Ouais, exactement. Exactement. La congruence aussi, l'intégrité entre je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et dans le système scolaire, c'est pas toujours ce qu'on voit.
Ouais.
Alors, ça peut être les profs, mais ça pouvait être la pionne aussi. Enfin, voilà. Et pour ma part, je pense que j'étais pas très tolérante à ça.
Ok. C'est bien de s'en rendre compte.
Ouais.
Parce qu'on a l'impression que le monde est parfaitement injuste. Et bon, tu te rappelles tout ce que je t'ai raconté. Hein.
Ouais.
C'est un peu le même parcours. C'est vrai qu'on a tendance toujours à dire « Ah, c'est pas juste ». Et puis, avec l'âge, on se rend compte que la justice, en fait, on ne sait pas trop ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a de l'éthique, il y a de la morale, mais après, il y a l'intention qu'on attribue aux personnes. Et c'est vrai que c'est bien de se rendre compte qu'il y a la tolérance qu'on a envers l'intolérance envers la justice, et des fois, notre seuil de tolérance aussi qui bouge. Et ça, c'est assez intéressant. on fait... Attends, juste si j'ai une question, quand même, attends, je reviens. Je reviens. Tu sortais où? Qu'on imagine quand même tes soirées.
Je sortais dans le centre-ville de Nantes.
Ok. Ouais. Et si on t'avait suivi sur une soirée, tu serais arrivé où, vers minuit, 2h du matin?
Alors, vers minuit, on a été beaucoup dans des cafés.
Ok.
Et après, comme ça fermait vers 2h du matin, plutôt chez des copains, des copines. Quoi.
Ok.
Ouais.
Ça marche. Bon, on fait une avance. Est-ce que, je t'ai pas demandé, à partir de quand tu as su, tu as fait le diagnostic, que tu as compris que tu avais un fonctionnement un peu différent? C'était à quel âge?
Alors, c'était... alors, moi, le compte-rendu de la psy, je l'ai eu... le test, je crois, plutôt, je l'ai passé la veille de mes 40 ans.
Ok, ça marche.
Donc, c'était en 2019.
Ok.
Ouais, septembre 2019.
Est-ce qu'on peut se connecter à la Sylvie de 38-39 ans?
Ouais.
Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur elle?
La Sylvie de 38-39 ans, elle a plutôt bien avancé, elle est bien dans sa vie. Mais par contre, je cherche toujours un petit peu à comprendre pourquoi je me sens en décalage, comment je fonctionne. Je me questionne encore sur qui je suis et je me questionne sur le fondement de cette question. C'est-à-dire que moi-même, je me dis, mais comment ça se fait que je me pose encore cette question? Ça me paraît pas normal, en fait, de m'interroger par rapport à ça. Je me dis que je suis à un âge où, normalement, cette question-là devrait être résolue depuis longtemps et ça devrait être une évidence. Donc, j'ai l'impression d'être un peu en retard, un peu à la traîne par rapport à ça. Mais sinon, donc je cherche encore un peu ma place, je cherche ce que j'aime, je cherche vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui pourrait m'épanouir davantage. Mais je suis bien installée dans ma vie.
Ok. T'es bien installée et tu cherches juste, tu questionnes déjà ton questionnement, ton propre questionnement sur le fait que comment ça se fait que je me pose des questions sur qui je suis. Alors que j'ai quasiment 40 ans, je suis quasiment à la moitié. Alors il y a un moment, il y a un truc qui se passe et qui fait que tu vas plus loin jusqu'au test. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est quoi? C'est un article, c'est une lecture, c'est une personne qui te dit « t'es trop bizarre, t'as des antennes ?» C'est quoi?
Ouais, alors en fait, c'est comme souvent dans les personnes que j'ai interviewées avant, c'est une tierce personne. Avec qui j'ai passé pas mal de temps au téléphone, et à la toute fin de la conversation, me lance dans les derniers mots, tu vois, elle me dit « je suis une HP qui se sabote ». Et moi, HP, je connaissais pas, donc je pense hôpital psychiatrique.
Psychiatrique.
Et je me dis « mais pourquoi elle me dit ça? De quoi elle parle? C'est quoi cette histoire ?» Et donc, je me demande de quoi elle me parle. Et donc, elle m'explique un petit peu. Et je sens qu'il y a beaucoup d'intensité dans ce qu'elle livre. Mais en même temps, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Du coup, ce que je fais, c'est que le lendemain, je vais voir sur Internet de quoi il s'agit, si je trouve des infos par rapport à ça et de quoi il s'agit. Et ce qui se passe, c'est assez étrange parce que ce que je lis dans les blogs ou sur les sites Internet, dans les articles de presse, etc., ça me parle beaucoup. Et ça me parle tellement qu'en fait, ça me déstabilise parce que moi, j'avais jamais envisagé cette option-là, cette possibilité. Et du coup, ça me fait même rougir intérieurement de m'autoriser à imaginer ce truc-là. Donc, je passe par une phase où je suis quand même comme ça, très, 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 très attirée et en même temps très, très gênée de ça. Et je peux pas rester dans cette entre-deux. Donc, très vite, je prends la décision de contacter une psychologue pour passer le test. Et
va pas trop vite, si tu veux bien. Ouais, on fait retour arrière. Entre le moment où tu entends ce « je suis une HP qui s'auto-sabote
»
et ta lecture et la demande d'un rendez-vous pour le test, il y a combien de temps?
C'était l'été, donc... et ma demande de rendez-vous, je pense qu'il se passe peut-être une semaine.
Ok, donc tu as été relativement rapidement.
Ouais, ça a été rapide. Okay. Après, le rendez-vous, je l'ai eu que 2 mois après, parce que donc c'était début d'été, vacances scolaires. J'ai bien commencé. Pendant le mois d'août, il se passe pas grand-chose. Donc, il a fallu attendre le mois de septembre. Donc, j'ai passé l'été, pas en pensant à ça tout le temps. Heureusement, j'ai réussi à couper. Mais ça m'a pas mal accompagnée quand même.
Ok.
Ouais.
Donc, le test ?
Donc, le test. Je trouve une psy qui me correspond parfaitement, que je trouve géniale. Et voilà, donc je prends un premier rendez-vous. Alors déjà, le premier jour, je passe la journée entière à me dire, il faut que je l'appelle. Évidemment, j'attends 17h59, tu vois, pour passer mon coup de fil. Ouais. Et je tombe sur une messagerie qui me dit que en fait, elle ne prend pas d'appel et qu'il faut lui envoyer un mail. Mince. Donc, j'ai attendu toute la journée pour ça. Donc, je prépare un mail, donc rebelote, je mets une plombe pour savoir quels mots je mets, quels mots je mets pas, dans quel sens je tourne mes phrases, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que j'envoie, qu'est-ce qui fait trop, qu'est-ce qui fait pas assez, etc. Tout ça pour 3 lignes. Elle me répond assez vite, elle me demande de lui préciser enfin certaines choses sur mon histoire, sur mon enfant, sur mes centres d'intérêt, etc. Et elle me propose un rendez-vous, début septembre.
Okay.
Et donc le premier rendez-vous, c'était pour savoir si il était pertinent ou pas de passer le test. Donc j'y vais. Premier rendez-vous se passe très bien. C'est une personne qui met, qui a beaucoup de sensibilité, qui met en confiance. Pardon. Je sentais qu'elle savait de quoi elle parlait, qu'elle avait un peu de tu vois, elle avait de l'expérience, en fait, dans l'accueil et dans le passage de test. Et je me sens pas jugée. Mm-hmm. Donc, je me sens assez en confiance. N'empêche que, le jour du test, j'arrive, je suis à faune. J'ai quasiment plus de voix. J'en ai juste un tout petit peu pour qu'elle puisse quand même entendre mes réponses. Mais quand même, je me retrouve, du coup, bien fatiguée aussi, parce que ça fatigue. Mais surtout, sans voix, quand même, ce qui est assez... Okay.
C'est de l'auto-sabotage ?
L'expression du corps.
L'expression du corps.
Ouais.
Qu'est-ce que te disait cette voix qui s'était arrêtée ?
Cette voix qui s'était arrêtée, alors c'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour moi, j'étais en train de faire, tu vois, quelque chose avec lequel je ne me sentais pas à l'aise. Il y avait une forme de reconnaissance où, pour moi, j'étais encore dans cette croyance que le HPI, c'était le petit génie, quoi. Donc... comment moi je pouvais m'imaginer m'autoriser cette place-là alors que je pensais que j'avais rien fait de spécial dans ma vie, qu'il y avait rien qui justifiait cette option et puis j'avais la trouille aussi, enfin vraiment. Moi j'y suis pas, il y en a qui disent qu'ils y vont en le prenant comme un jeu. Moi c'était pas vraiment un jeu, j'étais vraiment en stress, pas parce que je voulais absolument être HPI, mais parce que si jamais c'était pas ça, je repartais encore à zéro à me demander mais qui je suis et pourquoi je me demande qui je suis. Enfin, tu vois, cette boucle dont j'en avais vraiment assez, en fait, j'avais envie de mettre un point final à ça et d'avancer. Et d'avoir une réponse factuelle, en plus, un test chiffré avec une psychologue, quelque chose de reconnu, ça me rassurait beaucoup.
Ok.
Et du coup, j'avais envie d'y aller, mais il y avait aussi quelque chose, vraiment fallu que je prenne sur moi pour faire ça.
Ok. Donc, j'entends que toi, avant, contrairement à certains qui vont faire ça comme un jeu, t'étais stressé, enfin, t'avais des peurs qui ont fait qu'à un moment, la voix s'est bloquée. Pendant le moment, pendant le test, et comment ?
Alors, pendant le test, au tout début du test, elle commence par des questions sur le langage.
Mmh.
Et puis aussi des questions sur la mémoire.
Mmh.
Et je me souviens très bien qu'à un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais c'est une blague, en fait. Parce que moi, j'attendais des questions compliquées, en fait. Et ce qu'elle me propose, c'est tellement facile, c'est tellement simple. Je me dis, mais en fait, elle n'est pas en train de me tester, là. Elle fait semblant. Ça commence quand, en fait, le vrai test, tu vois ? Donc, voilà.
Ben, en même temps, à 8 ans, tu lisais à la comtesse de Ségur. Donc, peut-être qu'au niveau de l'intelligence, je ne sais même plus comment ça s'appelle, écrit. Je ne sais même plus de l'intelligence.
Langage,
langage.
Ouais. Bah, après, elle m'a expliqué ce qu'elle cherchait et elle m'a montré aussi dans son livre. Et je comprends que ce qu'elle cherche, c'est pas un niveau de difficulté particulier ou un langage soutenu, extraordinaire, où il ne faut pas avoir fait des études. Enfin, moi, j'avais fait des études littéraires, mais non, en fait, ça n'a aucun rapport. Mais c'est plus une capacité à conceptualiser. Ouais. Parce que, voilà, nous, on va plutôt partir d'un concept général, et puis après, détailler dans le concret. Et les personnes qui ont neurotypiques, qui sont neurotypiques, elles vont faire l'inverse. Donc, en fait, c'est ça qu'elle essaye d'évaluer et d'identifier.
Ok. Ah, je reprends, je rebondis sur ton terme neurotypique. J'aime bien, contrairement aux normaux pensants, je crois que c'est une expression qui est beaucoup utilisée, et qui crée une sorte de normaux pensants. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a un côté un
normalité.
Peu... normalité. Ouais, un peu, je sais pas, ce qui me dérange, j'aime bien, je préfère le neurotypique. Ok. Donc, il y a ça. On va peut-être pas trop dévoiler le test pour ceux qui se poseraient la question et qui veulent... Mais je vois ce que tu dis, cette capacité à conceptualiser, à prendre de la hauteur rapidement sur une notion. Et c'est vraiment ce qui est recherché. Donc, le test, 15 jours après, tu as les résultats quand ?
Ouais, c'est ça, 2 semaines après. Ouais.
Et alors ?
Grosse surprise en fait. Déjà, je passe presque 3 heures, je crois, dans le cabinet avec elle parce qu'elle reprend chaque question et elle me montre dans son livre la réponse qui était, attendue. Et elle reprend mon test de manière à ce que contrairement à beaucoup de personnes qui ont remis en question le test, du coup, moi, j'ai pas, peut-être par rapport à cette approche-là qu'elle a eue, mais moi, du coup, je l'ai pas remis en question après.
Ok.
J'étais assez convaincue que ce qu'elle me disait, c'était justifié, c'était vrai. Par contre, grosse émotion parce que quand elle m'explique tout ça, déjà, flashback, repasse ma vie en accéléré. En tout cas, certains moments forts de ma vie avec une intensité émotionnelle particulière et des moments où je suis restée bête, vraiment, parce que il y a eu des réactions en face de moi que je comprenais pas. Dans des situations où moi, par exemple, j'ai l'impression de pas avoir dit quelque chose ni de blessant, ni de particulier et que ça pouvait générer en face une réaction forte à laquelle je m'attendais pas et que moi, j'avais du mal à gérer après cette émotivité et ce retour-là, tu vois, dont je m'imprégnais, en plus. Donc, j'ai repensé à beaucoup de situations comme ça et je me suis dit, ah, mais c'était ça. Et en fait, ça m'a quand même beaucoup libérée d'un poids parce que ça y est, j'avais enfin la réponse.
Ok. Après... Alors, toi, t'as vu plein de choses dans ton cerveau.
Ouais.
Moi, j'ai l'image. Est-ce que tu te rappelles les termes? Je ne sais pas si tu te rappelles des miens. Moi, j'avais eu 2 termes. J'avais gâchis, avec cette sensation d'avoir paumé alors que c'était au final plutôt pas mal. Et ma deuxième, c'était maman. Parce que je me suis dit, ok, j'ai compris pourquoi ma mère avait aussi des problématiques qu'à l'époque, je considérais un peu bizarres. Toi, est-ce que tu te rappelles, est-ce que c'est les mots tu me dis, il y a des images qui sont revenues, mais est-ce qu'il y a des... que tu pourrais partager là, parce que les images, on ne les a pas vues. Mais est-ce que tu te rappelles, toi, j'entends libération, mais ça, c'est peut-être le résultat de cette séquence qui s'est passée en ta tête. Mais si tu devais, résumer cette séquence, ce truc, ce flashback qui s'est passé en ta tête, tu mettrais quoi comme mot ?
Par rapport à la petite histoire là que je
décidais. Ouais, compréhension.
Je dirais un mot. J'en sais rien. J'arrive pas à répondre à ta question.
Moi, je te partage ce que moi j'ai ressenti, une sorte de décodage. Oui. Peut-être t'as revu. C'est un peu comme des personnes qui auraient malheureusement un accident. Tu sais, des fois, on revoit la vie très rapidement, un peu en mode hyper accéléré. Et là, tu m'as dit tout de suite, bing, t'es retourné, flashback.
Ouais.
Ah, ok.
Ouais. C'était ça, exactement.
C'était ça.
Ouais. La première sensation, je pense que ça a été enfin. Enfin, ça y est, j'avais ma réponse. Ouf. Deuxièmement, c'est pas si grave. C'est une réponse et ma foi, il y a quand même pire dans la vie. Tout compte fait, ce décalage, cette sensation de pas trouver ma place, cette incertitude, ces questionnements. Ce plaisir parfois à me poser des questions aussi à laquelle il n'y a pas de réponse. Bon, j'ai pas un problème en fait. tu vois. Je me suis jamais sentie folle comme certaines, et en particulier les femmes peuvent le partager, mais quand même la question c'était, est-ce que c'est moi qui ai un problème, ou plutôt c'est quoi mon problème, tu vois. C'était même plutôt ça mon questionnement. Là je me dis, bon, en fait j'ai pas de problème, simplement il y a une différence que j'avais jamais imaginée, qui est pas visible, tellement pas visible que je peux même me la cacher à moi-même. Mais pourtant, cette différence, elle est cruciale parce qu'elle va colorer toute ma vie. Et ça y est, enfin, je sais ce que c'est maintenant. Il me reste à comprendre vraiment précisément de quoi il s'agit.
Ok. Et ça, là, maintenant, c'est comprendre.
Ouais.
Alors, comment t'as fait, toi, pour comprendre de quoi il s'agissait?
Bah, comme beaucoup, je me suis gavée de livres, de documentaires, d'études, d'articles, de tout ce que je trouvais en fait sur le sujet, jusqu'à la saturation. Et ouais, et puis surtout pas satisfaisant. En fait, à chaque fois, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose, de tenir quelque chose, mais que ça restait superficiel, de pas aller assez en profondeur, que ça peut être juste, mais ça peut être faux aussi. Tu vois, parce que chaque critère qu'on te présente, on te dit, ça peut vous parler, mais ça peut ne pas vous concerner aussi. Enfin, du coup, une espèce de gloubi-boulga, confus et pas satisfaisant par rapport à ce que moi je cherchais.
Ok. Et donc, pour creuser le sujet,
et donc,
t'as fait quoi ?
Alors, il y a juste un livre qui sort du lot pour moi, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes interviews, mais je le redis, c'était l'approche de Carlos Tinoco, qui est un philosophe et entre autres professeur de philosophie, mais il a diverses casquettes, hein. Et il a écrit deux ouvrages là-dessus, et je trouvais que lui, il avait quand même une approche avec une profondeur très différente. Voilà. Et ça m'a fait du bien. Après, c'est pas des livres que j'ai trouvé faciles à lire. Pas forcément facile, mais par contre vraiment intéressant. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, c'est un peu là où j'ai décidé de créer le podcast. Alors justement, j'avais envie de parler du HPI, mais moi j'avais l'impression de pas avoir grand-chose à dire dessus. D'abord parce que j'en connaissais peu. Et puis parce que je sentais bien qu'il y avait une vérité qui n'était pas du tout universelle et que je voulais pas, tu vois, nourrir encore plus, abonder dans le sens de toutes ces infos qu'on trouvait, déjà redire ce qui était déjà 10 000 fois, et puis peut-être dire des choses fausses, peut-être dire des choses qui allaient induire les autres en erreur. C'était vraiment quelque chose qui me paralysait, en fait, devant mon micro. Et j'ai contourné ce truc-là en faisant le choix de l'interview. En tendant mon micro à d'autres. Et en parlant...
Moi, j'ai peur, prends le micro et parle de ton sujet.
Ouais, c'est non. Pas tellement ça. Enfin, il y avait peut-être un peu de ça quand même au départ, en tout cas. Après, je pense que c'est passé. Mais c'est que moi, je voulais quelque chose de concret. Je voulais pas des grands concepts, je voulais pas de la théorie, je voulais pas tout ce que je trouvais justement dans les livres que j'avais lus avant. Je voulais savoir vraiment concrètement, pour les gens qui étaient passés par là avant moi, bah alors toi, comment ça s'est passé pour toi ? C'est-à-dire, comment tu vivais ça avant de le savoir ? Donc, j'ai trouvé des points communs chez moi, pas toujours, hein, mais souvent des points communs. Comment ça s'est passé pour toi le moment de la découverte, comme tu viens de me demander ? Et puis, qu'est-ce que ça a changé après ? Et en fait, ça peut être très différent d'une personne à une autre. Et surtout, c'est pas quelque chose qu'on impose. En fait, je trouve que ça laisse la liberté à chacun de prendre ou de pas prendre ce qui l'intéresse. Et en même temps, c'est pas critiquable parce que c'est le vécu de la personne qui est interviewée, c'est son ressenti. C'est pas une vérité où je dis, moi, je sais ce que c'est que le HPI. Voilà, tiens, c'est ça. Et c'est pas autre chose.
Je crois que t'en as eu quelques-uns quand même. J'ai cru entendre quelques reportages, quelques interviews où il y avait des personnes qui avaient l'air très 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 pas fermé, mais qui savait ce que c'était, qui étaient les sachants.
Alors, je sais pas très bien à qui tu penses. pas quelques-uns, c'est un en particulier.
Ok, bah, tu vois, moi c'est vrai que j'avais écouté ça.
Je sais.
Et je m'étais dit, ok, en fait, et c'est vrai, c'est marrant parce que on en a beaucoup parlé off.
Ouais.
Cette étiquette HP qui des fois enferme plus qu'elle ne libère, parce que d'un coup, on a l'impression de moi je comprends mieux. Et des fois, on met des problèmes sous l'étiquette du HP alors que ça n'a rien à voir. C'est juste un manque de souplesse. Cognitif, je sais pas si ça peut se dire, et tout ça. Donc c'est intéressant ce que tu dis, et je voulais juste revenir là-dessus, c'est que donc au début tu te sentais peut-être pas encore légitime pour transmettre ce que toi t'avais compris du sujet, et aujourd'hui t'es devant moi après 40 et quelques interviews. Qu'est-ce qui a changé alors depuis le premier interview où t'as tendu le micro à, je crois que je devais être le 3 ou 4e? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es hyper. Je te vois détendu, alors les auditeurs ne te voient pas, mais moi je te vois détendu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es détendu pour en parler?
Bah, y a beaucoup de choses qui ont changé entre moi d'il y a 3 ans quand j'ai commencé le podcast et puis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ce qui a changé, c'est que d'abord, c'est l'autorisation. Alors, pour moi, si je devais dire un mot derrière la découverte du HPI, c'est l'autorisation. C'est vraiment la clé principale. C'est-à-dire que au lieu de me forcer à rentrer dans un moule dans lequel je ne rentre pas, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce qui me semblait être des bizarreries auparavant. C'est-à-dire que je ne me juge plus, ou presque plus, on va dire, pour être honnête, mais beaucoup moins, en tout cas, qu'auparavant. Il y a des choses qui m'accrochaient en fait avant, qui allaient me déclencher émotionnellement et qui aujourd'hui qui glissent, parce que je sais que c'est ça qui est en jeu derrière, et je sais que
est-ce que t'as un exemple? C'est intéressant,
mais ça peut être des trucs mais tellement bêtes. Le premier exemple qui me vient en tête, tu vas voir, parce que c'est dans le sens que je veux dire, c'est des micro détails, mais un jour j'étais avec deux de mes collègues et le bureau du directeur venait d'être refait avec du nouveau mobilier. On rentre dans le bureau et qu'est-ce que je vois, moi? Je vois que, je sais plus, je crois que c'était le porte-stylo et la poubelle sont coordonnées dans les couleurs. Un truc, tu vois, c'est bête. Et je trouve ça joli. Et en fait, spontanément, sur le moment, je le dis, quoi. Et là, mon collègue se tourne vers moi avec un air complètement surpris, tu vois, ou désolé, enfin je sais pas comment le l'interpréter sur le moment, et de me dire non mais toi vraiment, mais tu remarques que les détails, quoi. Ou et en fait c'était pas méchant, c'était pas péjoratif ce qu'il me disait, mais à ce moment-là, moi c'est comme si je me prends une baffe, parce que je me sens complètement en décalage, je me sens incomprise, je regrette, tu vois, d'avoir permis à cette phrase de sortir spontanément. Et ce qui, lui, il a oublié les 3 secondes après, moi, en fait, ça va me poursuivre. Et tu vois, je m'en souviens même encore. Alors, ça fait plusieurs années. Parce qu'il y a une émotion hyper forte, en fait, derrière ce moment-là. Ouais. Sauf que, même si je m'en souviens aujourd'hui comme d'un exemple, je sais que j'ai pas souffert longtemps de ce moment-là. Parce que très vite, ça m'a fait sourire et je me suis dit, ah bah voilà, le type de moment sur lequel j'aurais pu bugger avant, qui aurait pu me déstabiliser pendant un certain temps et qui aujourd'hui ne sont pas énergivores, parce que je sais de quoi il s'agit. Je sais que c'est normal qu'on ne se comprenne pas, c'est juste qu'on ne voit pas les mêmes choses. On va pas. Moi, je vais regarder les détails parce que c'est pas un détail pour moi. Parce que ça crée une harmonie dans l'ensemble. Et que cette harmonie, elle est hyper importante pour moi. Ça va faire que je vais me sentir bien ou pas bien dans une pièce. Donc, lui, c'est un détail, parce que c'est la couleur de la poubelle et qu'il s'en fout complètement, et je le comprends. Je lui en veux pas pour ça. Mais moi, je sais que pour moi, c'était autre chose. Et je sais qu'on se retrouve pas, en fait. Tu vois, il n'y a pas dans notre manière de voir à ce moment-là, il n'y a pas de point commun. Mais c'est pas grave.
Ok. Voilà. Alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce qu'en fait, ce que tu me dis là, on pourrait avoir cette discussion-là dans un sujet pas du tout HP, à savoir, ça me fait penser au métaprogramme en PNL. Il y a des gens qui sont très détails et des gens qui sont très global. Moi, je fais partie des personnes qui sont très globales, c'est-à-dire que je vois le truc en gros, et après, je vais aller affiner si j'ai besoin d'aller creuser. Par contre, toi, des fois, je ne vais même pas creuser. Contrairement à toi, le HP, on m'a dit HP, je me suis autorisé tout juste à dire, bon, je peux tout faire, et après, je ferai, tu vois, et je n'ai pas été dans le détail. Et c'est intéressant, donc, cette scène, tu vois, tu mets ça sur le fait que ce soit HP, et j'ai l'impression qu'il y a autre chose, tu sais, un peu cette, le fait que toi, tu t'acceptes plus, c'est-à-dire que tu t'es soigné, auto-soigné, à dire, en fait, ces remarques-là ne me blessent plus. Moi, j'ai juste une question, si là, ça se rejouait, tu fais la remarque, lui se retourne vers toi et te fait les yeux, et tu lui réponds quoi?
Je lui dis, je sais pas, j'en sais rien.
C'est
beau.
Je
pense que ça se reproduirait pas, j'en sais rien. Je crois que ça me ferait sourire, en fait, tu vois, ou ça me ferait peut-être rire même. Ou je lui dirais, t'as raison, mais oui. Mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que comme on va aller beaucoup plus vite dans l'analyse des choses. Mmh. Moi, quand je rentre dans cette pièce, je me souviens très bien que je vois l'ensemble comme toi d'abord. Ouais. Et après, très vite, il y a ces deux trucs qui ressortent parce qu'ils sont colorés et que pour moi, ils ressortent, quoi, en fait. Je peux pas,
c'est beau.
Je peux pas ne pas les voir.
C'est harmonieux.
Voilà.
Ok. Et est-ce qu'il y a eu d'autres choses que là, je t'ai coupé dans le fil, tu m'as dit, maintenant, j'arrive à glisser sur les trucs avant que je comprenne que j'avais un fonctionnement qui était un peu différent. Là, tu viens de l'expliquer, en fait. Clairement, ça, lui, il arrive. Oui. On va dire, lui, il voit global. Toi, tu vois global. Et d'un coup, tu vois harmonieux.
Oui.
Tu cherches l'harmonie parce que ça fait partie de peut-être tes valeurs. Et tu la trouves. Et tu l'as dit, ce qui est super chouette. Mm-hmm. Lui, logiquement, il se retourne en disant, ah ouais, j'avais pas vu. Ah ouais, c'est vrai que c'est sympa. Il réagit pas de la même manière. Et après, toi, tu changes de réaction. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui aujourd'hui, c'est normal. Enfin, tu vois, la petite phrase en disant, bon, on réagit pas de la même manière, c'est normal.
Certainement, mais là, ça me vient pas comme ça.
Est-ce qu'avec ton conjoint, est-ce qu'il y a des choses avant qui passaient peut-être pas bien ou qui accrochaient un petit peu et qui aujourd'hui sont beaucoup plus fluides?
Non, parce que c'était déjà très fluide avant. Mais par contre, c'est vrai que moi, le travail que j'ai fait pour moi, ça lui a servi aussi à lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin de passer le test, mais on s'est rendu compte que voilà, on était un nid de HPI. Ouais.
Donc ça l'a aidé aussi.
Ça l'a aidé aussi, c'est certain. Ah ouais, ça lui a aidé à prendre conscience en lui. Après, pour répondre à ta question, je ne sais pas trop.
Alors, reviens plutôt, alors peut-être, vu qu'on ne va pas aller creuser trop profondément, tu m'as dit, je me suis autorisé, ouais. Ça m'a donné des autorisations. Est-ce que là, il y a un truc que tu t'es autorisé à faire, peut-être cette année, que tu n'aurais pas osé faire il y a encore 5 ans?
Ah ouais, plein. Plein de choses. Le truc le plus évident, je m'autorise à faire des choses que j'aime faire et que j'aurais pas, ne me serais pas forcément permise auparavant parce qu'il y avait ce jugement de je suis trop instable dans mes choix, dans mes envies, dans mes goûts. C'est pas normal. Donc, il faut que j'arrête de m'éparpiller dans 10 000 trucs et un coup d'aimer un truc, un coup d'en aimer un autre. Il faut que je me donne une direction, que je la suive, même si ça me convient pas, c'est pas grave. Il faut que j'aille quand même, tu vois. Bon, aujourd'hui, j'ai lâché ce truc-là et je m'autorise à faire ce que j'aime. Alors, il y a beaucoup de choses. Du coup, il y a eu un moment où je me fatiguais aussi, tu vois. Il faut aussi gérer son énergie. Mais je fais de la rando toute seule ou avec une copine, partir une semaine. Bon, ça, c'est un truc que j'aurais pas osé faire avant. Je suis beaucoup plus à l'aise dans l'échange, dans la relation, dans la rencontre avec les autres. Je me pose moins de questions. C'est beaucoup dans le sport aussi. Je me suis mise à la course à pied. Avec des collègues et les échanges avec les collègues ont été complètement transformés. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai découvert ça, j'ai commencé une formation de coaching, j'envisageais de quitter mon poste pour faire du coaching. Et finalement, j'ai fait du coaching, mais de manière ponctuelle, mais j'ai jamais quitté mon travail. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter le coaching parce que je peux pas être sur plein de choses en même temps. À mon travail, c'est complètement transformé aussi. C'est-à-dire que les relations sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus satisfaisantes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé.
Et est-ce que tu penses que le sport, ça t'a permis... Moi, je te parle de ça parce que souvent, c'est comme tu le sais, j'accompagne moi beaucoup de personnes qui sont très sensibles, hypersensibles, très mentales, des fois diagnostiquées HP ou pas, qui ont besoin, qui ont envie de le savoir ou pas. Et c'est vrai que moi, souvent, l'exemple que je prends, c'est que soit l'énergie est dans le mental, avec notre capacité à questionner les questions, des questions, des auto-questions, et là, on tombe dans un... On peut complètement se percher et perdre complètement pied dans la vie, en fait, parce que là, on s'exclut encore plus du monde. Soit l'énergie, il est ailleurs. Et j'ai trouvé, moi, par exemple, le running, c'est un truc qui fait énormément de bien, parce que l'énergie qui est dans le mental tombe dans les pieds. Et après, en plus, quand tu es habitué, tu peux le faire remonter dans le cerveau, le redescendre dans les pieds, en fonction de tes envies. Est-ce que toi, tu penses que ça a été une clé? Et peut-être, si oui, même si oui, est-ce que tu en as d'autres que toi, tu as mis en place pour trouver cette sérénité et cette capacité à rejoindre le monde, enfin le monde en fait, tout simplement?
Oui, alors moi, je dirais un peu la même que toi, c'est-à-dire que la course à pied, ça m'aide énormément. Alors au départ, parce que je cherchais quelque chose qui soit suffisamment intense pour court-circuiter justement mes pensées. Sauf qu'effectivement, tu l'as très bien dit, au début, ça court-circuite parce que toute ton énergie, elle est dans l'effort physique que tu es en train de fournir, surtout quand ça fait plusieurs années que tu fais plus vraiment de sport. Mais au bout d'un moment, ton corps se réhabitue, la facilité fait que tu recommences à penser. Mais effectivement, tu peux gérer cet aller-retour. Mais moi, la course à pied m'aide énormément. Et j'y prends de plus en plus de plaisir, mais aussi la marche. Après la marche, l'inconvénient, c'est le temps à consacrer. C'est-à-dire que pour avoir la même quantité, pour avoir ma dose, faut que je marche longtemps. Et du coup, ça va me prendre beaucoup plus de temps sur mon emploi du temps. C'est pas toujours possible, mais c'est beaucoup, beaucoup le sport. Beaucoup le sport parce que moi, j'étais beaucoup dans le mental, justement, beaucoup dans ma tête, beaucoup trop. Et donc, de faire des choses qui me reconnectent au corps. Il y a le yoga aussi. Je fais du yoga toutes les semaines. Et ça fait beaucoup de bien. Ça fait aussi beaucoup de bien, ouais. Donc, en général, le sport. Et après, les rencontres, beaucoup. Donc, autant ça peut être des fois fatigant, mais les échanges et les rencontres, mais c'est aussi quelque chose qui me donne de l'énergie énormément. Et donc ça va être par le podcast, mais ça va être aussi je suis investie dans des associations, autour de chez moi. Donc je vois pas mal de monde et ça me fait du bien aussi, beaucoup.
Je pense que comme tu disais, t'as parlé du yoga. Moi, j'avais parlé un peu de la méditation, de l'écriture, du sport et des rencontres. Parce que la problématique des HP, c'est que on se sent en décalage. On se raconte cette histoire de décalage. On s'auto-confirme qu'on est en décalage et donc on s'isole. Et plus on s'isole, plus on est avec nous-mêmes. Et donc on arrive à se raconter des histoires. Et c'est vrai que les rencontres, ça fait du bien. Et souvent, si possible, dans des environnements où potentiellement il y a des personnes aussi qui sont sensibles. Et avec pas trop de son, pas trop de bruit, pas trop tout ça, quoi.
Oui, et des fois avec plein de bruit, mais en même temps, c'est enrichissant. Et puis, quand on a marre, tu t'en vas, en fait, tout simplement. Parce que tu vois, avant, là où je me serais obligée peut-être à faire durer le truc alors que ça ne m'allait plus, aujourd'hui, avec mon chéri, on se regarde et on se dit, on s'en va. Ouais, on s'en va. Allez, on rentre. Donc, voilà. Et en fait, tu vois, dans ce que tu viens de dire juste avant, dans ce sentiment de décalage, on intériorise ça, on le mentalise, on le rumine aussi. Du coup, moi, j'ai été beaucoup dans ça, dans la rumination des mêmes pensées. Et que ce décalage, il enferme. En fait, moi, il m'a enfermé tant que j'arrivais pas à comprendre ce décalage. À partir du moment où je l'ai compris, c'est ça que ça a déverrouillé, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de m'isoler parce que je me sentais en décalage, aujourd'hui, je sais que parfois, je vais me sentir en décalage, mais c'est pas grave en fait, tu vois, c'est plus un problème ce décalage. Et c'est ça le changement énorme, c'est ça l'autorisation et que finalement j'ai le droit d'être en décalage, c'est pas grave, c'est pas un problème. Finalement, je me sens peut-être de moins en moins en décalage. C'est-à-dire que le fait d'apporter moins d'importance à ce décalage, ça fait que finalement, je le ressens de moins en moins, il est de moins en moins fort. Et je me dis que parfois, les bizarreries que moi, j'envisageais comme un décalage, c'était moi qui les jugeais, surtout fortement négativement, et qui apportait beaucoup d'importance. Et qu'aujourd'hui, où finalement, je me censure beaucoup moins qu'auparavant, c'est-à-dire, j'arrive pas avec une pancarte en disant je suis HPI, hein, c'est très rare que j'en parle, mais je le cache pas non plus. Et surtout, j'ai plus de problème à dire ce que je pense ou ce que je ressens, ou tu vois, le genre de situation que je décrivais tout à l'heure avec mon collègue. Il y a plus trop de freins par rapport à ça. Ben, finalement, je me rends compte que ce décalage, il est peut-être moins fort que je l'imaginais, en fait. Il est présent. Il y a des moments où il va être fort. Mais c'est pas aussi souvent que ça, finalement. C'est moins important que l'importance que je lui donnais auparavant.
Ouais.
Je sais pas si c'est clair.
Ouais, mais c'est hyper clair. Et déjà, j'ai l'impression de retrouver un peu les phases dont on avait parlé, hein. C'est la phase de digestion, là. Ces sensations. Toi, ça a été libération. Moi, ça a été un peu différent. Intégration. Alors, il y en a qui ont besoin de lire beaucoup, de rencontrer, comme tu l'as fait, plein de personnes. Et après, il y a la phase de, j'ai l'impression, moi, ce que j'appelle libération. C'est-à-dire, OK, j'ai cette étiquette, mais j'oublie. Et des fois, tu sais, et en fait, peut-être que, au fil de l'eau, en fait, tu l'oublies carrément jusqu'à, mais t'es HP? Ah oui, je suis HP. Et juste parce qu'en fait, ça prend plus d'importance. Et le deuxième point que tu viens d'aborder, qui est, je trouve super intéressant, et moi, c'est une prise de conscience énorme sur, peut-être la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est l'histoire qu'on se raconte. Regarde, au début, tu m'as dit, je t'ai parlé de la petite Sylvie, et tu es, ouais, je suis pas très fan de me connecter à ça, et au final, il y a des trucs cool. Et en fait, c'est hyper important. C'est peut-être juste un petit message que moi, j'aimerais, je reprends le micro un tout petit peu. C'est attention à l'histoire qu'on se raconte. Quelqu'un qui se dirait en décalage, pas heureux, va se confirmer ça toute sa vie. Alors que des fois, juste une prise de conscience ou juste se dire, OK, en fait, il y avait quand même des moments un peu sympas, des moments où je n'étais pas en décalage. Tu l'as dit, des fois, tu étais dans des soirées, je pense qu'il n'y avait pas que des HP, mais tu te sentais quand même bien. Et en fait, c'est hyper important de se rappeler ça pour comprendre la différence et après passer à autre chose. Autrement, on reste bloqué. Et on en a parlé souvent off en disant, ouais, mais moi, je suis HP. Ouais.
Et le but, c'est pas d'être qu'avec des HP, en fait, c'est pas d'être avec des clones, surtout que moi, enfin, j'ai fait ça une fois, j'ai participé à une réunion de HP, j'ai trouvé ça chouette, j'y suis jamais retournée.
C'était tellement chouette que tu y es pas retournée.
Il y avait des gens sympas, il y a eu des bons moments, mais ça n'a pas été l'extase non plus, hein, loin de là, donc... Voilà. En fait, c'est ça aussi que je voudrais dire, moi, par rapport au HPI, à ma démarche par rapport au podcast, de tendre de mon micro et d'essayer de capter des moments de vie concrets, c'est que le HPI, la théorie en général, elle sert pas à grand chose. Je pense, en tout cas, moi, elle m'a pas servi à grand chose. Je pense qu'elle sert pas à grand monde. La seule chose qui est vraiment importante, c'est de prendre c'est certains des critères qu'on voit et de voir comment c'est important pour soi dans sa propre vie en fait. Voilà, et c'est vraiment de le personnaliser. Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de généralité à laquelle ça raccrocher. Et ce qui est vraiment important, c'est de le personnaliser, de l'individualiser, de le digérer et de se l'approprier comme ça. En prenant en compte ses envies, son caractère, son histoire. Et effectivement, en se méfiant aussi de ses souvenirs et de son filtre, parce que les souvenirs, on les déforme. Et ça, c'est un exercice assez intéressant, c'est de voir que deux personnes qui vivent la même chose au même moment, elles ne vont pas du tout en garder le même souvenir. Donc, il y a toujours une question d'interprétation là-dedans. Mais surtout d'en faire quelque chose d'individuel et de le personnaliser. Voilà.
Mais c'est encore une fois, c'est ce que tu dis. C'est le fait, mais c'est bien de, en fait, de, comme tu dis, en fait, c'est expérimenté, mais on reviendra souvent à ce truc, c'est que la théorie, c'est super. Mentalement, on comprend des fois, ah bah oui, il faut moins réfléchir, mais tant que t'as pas expérimenté, on avait parlé du bonheur tous les deux dans l'épisode, tant que t'as pas expérimenté le bonheur, tu sais pas ce que c'est, tant que t'as pas expérimenté cette libération émotionnelle, tu sais pas ce que c'est bien beau d'ouvrir des bouquins, mais encore une fois, c'est des fois s'enfermer un peu trop, et je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin. J'ai besoin de tout comprendre. Mmh. Ouais, bah tu vois, moi, je ne peux pas du tout passer par cette étape-là, parce qu'en fait, moi, je ne sais pas pourquoi, quand on m'a dit THP, après les mots un peu négatifs, j'ai pensé spationaute. Et là, je me suis dit, bon, négatif, parce qu'à l'époque, j'étais négatif, c'est, ah, c'est con, j'aurais pu être spationaute. Et après, je me dis, mais si je peux être spationaute, je peux tout faire. Mmh. Et j'ai même droit d'écrire. Et tu vois, c'est là que l'aventure a démarré, moi, dans mon activité. Et donc, c'est ces autorisations. Et on en avait parlé un peu off, et c'est vrai que s'autoriser à se dire, en fait, je suis bien, je suis parfait, je fonctionne pas comme les autres, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui fonctionne de la même manière. Et ça, c'est hyper, hyper important, hyper important de le savoir. Mm. Alors, je sais aussi que ce podcast, il a une V2 qui arrive bientôt. Tu vas t'autoriser, oui, à faire des choses différemment. Oui. Est-ce que tu as envie de nous dire quelques mots là-dessus?
Oui, bien sûr. Alors, l'idée, c'est de le faire un petit peu avancer, parce que maintenant, ça fait 3 ans que je suis un petit peu le même modèle. Donc, les interviews peuvent se poursuivre, hein, s'il y a des gens qui veulent témoigner. Ça m'intéresse toujours de les enregistrer et de les diffuser. Mais j'aimerais bien, justement, par rapport à cet aspect concret de la vie de tous les jours, aborder des sujets de la vie du quotidien et les décortiquer un petit peu avec quelqu'un qui a un petit peu d'expertise en fait dans ce, okay, dans ce domaine-là. Je pense à plein de sujets, ça peut être autour du corps, de l'alimentation, du sport, mais ça peut être aussi, tu vois, j'ai eu un échange il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui accompagne des enfants HPI, qui est un ancien enseignant, justement parler de la parentalité, de l'éducation, du rapport au système scolaire. Donc une sorte de mini-série avec une thématique spécifique et puis des épisodes peut-être un petit peu plus courts que les témoignages qui nécessitent du temps, parce que quand on parle voilà de choses, laisser le temps, c'est important de laisser le temps aux autres de parler d'eux, de leur laisser le temps nécessaire, et puis pour se sentir à l'aise, parce que souvent aussi c'est des gens que je connais pas en fait et qui me connaissent pas, qui me font confiance et qui viennent s'exprimer, donc ça se fait pas non plus en 5 minutes, mais sur des sujets plus pratiques je pense qu'on peut aller plus vite directement à l'essentiel, et donc voilà, ça pourrait être ça, ça peut être les émotions, il y a tellement de sujets, alors c'est pas uniquement ciblé HPI, mais je pense qu'il y aura quand même une coloration, tu vois, du fait que, bah, que c'est moi qui, c'est mon podcast et que les gens qui viennent à moi souvent, elles ont au minimum une sensibilité particulière.
Ok. C'est pour quand ?
Ah, c'est en cours. Ah. je pense que les premiers épisodes pourront sortir au mois de mars.
Ok. Et je suis sûr qu'il y a plein de tes auditeurs qui ont hâte de t'entendre sur ces sujets-là avec des experts. Est-ce que par rapport à ce qu'on s'est dit là, est-ce que toi, tu avais encore un message Peut-être que j'ai envie de passer moi un message avant que te laisser la parole. C'est que heureux
ça
et
m'arrange.
Soudoué, ça te permettra de réfléchir un peu. Heureux et soudoué, je trouve que c'est cool. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté ton invitation, alors que j'en ai décliné pas mal d'autres. Parce que j'aime bien l'idée de se dire, surtout pas s'enfermer dans l'étiquette. Je suis HP, je suis différent, comme le monde est, semble, sur certains aspects, pas du tout sensible et pas du tout adapté aux personnes sensibles, je vais être malheureux toute ma vie, alors que c'est vraiment pas le cas. T'en es la preuve, j'en suis aussi pas mal la preuve, et il y a plein de personnes. Et comme tu l'as dit, je pense qu'en développant, en apprenant à accueillir ses émotions, en apprenant à passer du mental au pied ou à d'autres parties du corps avec le yoga, en faisant plein de choses comme ça, on a moyen de libérer des choses et de se sentir super bien. Et donc ça, je trouve que là-dessus, tu as fait un sacré boulot. Le bébé podcast va grandir et ça, c'est cool. Et c'était une belle aventure. Et en plus, moi, j'ai kiffé, comme diraient les jeunes ou les moins jeunes, de passer, de raconter et pour avoir eu des dizaines, voire des centaines de retours off de personnes qui sont devenues clients, parce que j'ai plus de femmes, ou simples auditeurs, et bien en fait, ça a été la révélation pour beaucoup de personnes. Et c'est cool d'avoir eu plein, une quarantaine de visions différentes pour que les personnes se disent « Ah, ok, là, je ne me reconnais pas, là, je me reconnais. Ah, c'est ouf. J'ai l'impression d'être cette personne-là, je me rappelle sur la cour d'école et tout ça. » Donc, c'est hyper intéressant. Donc, merci Phoebe pour le podcast. Merci pour les deux invitations.
Oui.
Et merci pour tous ceux que tu as aidés, parce que ça a été un gros boulot. Et tu l'as dit, le podcast, comme ça, ça ne paraît pas grand-chose. C'est une petite bande audio. Mais derrière, il y a beaucoup de boulot. Et moi, je sais ce que c'est. Donc, félicitations pour tout ce que tu as fait. Et j'ai hâte de voir la V2. Je ne sais pas si je serai suffisamment expert à ton goût pour venir participer, mais en tout cas, j'ai hâte de voir les sujets que tu vas aborder et je suis sûr que ça va aider encore beaucoup de personnes.
Ouais, c'est gentil, Sylvain. Merci beaucoup, ça me touche. Effectivement, tu as été la troisième personne que j'ai interviewée. Je me souviens très bien qu'à ce moment-là, je n'étais pas hyper à l'aise et que c'était toujours un petit dépassement de soi à chaque fois, même si je prenais beaucoup de plaisir et que je savais que j'étais sur la bonne voie. Mais voilà, il fallait vraiment que je me pousse dans le dos, tu vois, pour oser, en fait, à chaque fois que je renouvelle cette expérience, qui aujourd'hui est devenue, du coup, beaucoup plus fluide. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est la diversité. Et c'est ce qu'on m'a dit aussi dans les retours que j'ai eus récemment, pareil, de personnes qui me remercient gentiment pour le podcast. C'est la diversité des profils, la diversité des horizons, la diversité de genre, la diversité de niveau social, d'études, d'intérêts. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas de classe, en fait. Tu vois, il n'y a pas de niveau. Ça peut toucher tout le monde. Ça n'a rien à voir, en fait, avec l'intellect je sais pas, un niveau d'études ou un niveau social qui permettrait d'avoir accès à, tu vois. Donc, c'est en fait vraiment un mode de fonctionnement différent, inné. On n'a rien fait pour l'avoir, donc on n'a pas non plus à s'en glorifier, mais on n'a pas, c'est pas un problème en soi. Donc j'aime beaucoup cette diversité, je trouve que ça fait du bien justement dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, de s'ouvrir à tout ça, c'est chouette. Ce que j'aurais envie de dire aux gens, alors je vais essayer de pas perdre mes idées parce que il y en a une, je sens depuis tout à l'heure, elle est en train de se faire la malle régulièrement, elle revient.
Ramène-la.
J'ai de la choper. La première chose que j'ai envie de dire aux gens qui écouteront, c'est déjà ne vous découragez pas. Voilà. Parce que c'est pas un chemin facile, que ce soit avant la découverte, même parfois après. Voilà. Chacun le vit différemment, effectivement. Il y a des gens qui vont tout remettre en question. Il y en a d'autres pour qui ça va être une intégration beaucoup plus douce. D'autres, ça va être par palier. Chacun avance à son rythme et chacun l'interprète comme il a envie. Mais voilà, ne vous découragez pas. Ce n'est pas un problème et on peut vivre très bien avec ça. C'est même plutôt une chance, j'en suis vraiment de plus en plus convaincue, parce qu'on a cette possibilité, je le crois vraiment, de faire tout ce qu'on a envie de faire et de réussir tout ce qu'on a envie de réussir. À partir du moment où on le fait avec le cœur et qu'on est vraiment déterminé à contribuer à quelque chose ou qu'on a un moteur puissant en fait, dans notre démarche, on peut réussir ce qu'on veut. Et ce n'est pas du tout... de la prétention de le dire. Je pense qu'on a la capacité de rassembler les informations. En plus, aujourd'hui, avec Internet, on a accès à quasiment toutes les informations possibles et imaginables. Il suffit de s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment... Ça pourrait être un autre sujet de mini-série, tu vois, du podcast.
L'environnement.
S'entourer des bonnes personnes. Et après, une fois qu'on a ces deux trucs-là, on peut faire... on peut réussir ce qu'on veut. Et ben voilà, j'ai perdu ma troisième idée.
Ah non, bah, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal de finir sur. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est marrant parce que, tu te rappelles, on avait fini comme ça aussi avec l'humilité où j'avais dit, si on se bouge pas, enfin, le monde a besoin que certaines personnes bougent. Alors, si nous, on se bouge pas avec la sensibilité qu'on a et voire l'hypersensibilité qu'on a, c'est un peu dommage. Et j'avais eu pareil ce petit après à me dire, ah, ça fait un peu. Mais en fait, je pense que tu as vraiment raison. Si c'est fait avec le cœur, on a une sorte de petit moteur de Ferrari. Hein, donc, à un moment, faut l'accepter. Il faut la laisser partir et il y a moyen de faire des super belles choses. Donc, ouais. Moi, je trouve que c'est un beau message de fin, sauf si tu as récupéré une de tes idées.
Ben oui, parce que en fait, tes premiers mots m'ont tout de suite reconnecté à mon idée. Donc, merci, merci Sylvain. C'est que moi, ce qui me motive en fait vraiment dans ce podcast, c'est que je suis convaincue que on a tous quelque chose à apporter. En fait, on a tous un talent. Et on a tous quelque chose de chouette à apporter aux autres, à soi, mais aux autres aussi. Et tu vois, c'est un message d'un des auditeurs qui m'a touchée là récemment, où en fait, il explique que le podcast l'a accompagné dans la compréhension de son fonctionnement, l'a accompagné dans la découverte de son potentiel, et que depuis, il a quitté son emploi. Alors, je dis pas qu'il faut que tout le monde quitte son emploi, moi, je l'ai pas fait, par exemple. Mais que depuis, il travaille sur un projet qui va être utile pour la santé, utile pour les autres. Et je me dis, voilà, c'est ça, en fait, vraiment, mon moteur. C'est que on a tous un talent. Moi, le mien, je crois que c'est d'écouter, de valoriser, justement, de mettre en forme, de savoir peut-être questionner. Mon talent, il est autour de ça. Mais il y a d'autres personnes, ça va être complètement différent. Mais en fait, tous ces talents, ils sont importants parce que le monde, il est ce qu'il est. Il n'est pas parfait. Mais en tout cas, on a tous un rôle à jouer et on peut contribuer de manière positive. Et ce n'est pas juste des mots en l'air. Ce n'est pas juste des bons sentiments. Un petit peu de poudre rose de fée, là, et hop, après on oublie. Non, je pense que vraiment, il y a des choses concrètes. Qui peuvent se sortir en fait de cette démarche de mieux se comprendre, de comprendre ses forces et de comprendre qui on est, et que c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure quand tu t'es découvert, ce serait du gâchis de pas l'exprimer. Voilà, okay. J'ai fini.
Ok, est-ce que tu me permets juste de synthétiser, donc on allume le cœur,
ouais.
On met la clé dans au niveau du moteur, on démarre et on trouve la piste où on peut s'exprimer et rouler à pleine balle.
Exactement. Avec plaisir.
Avec plaisir.
Essentiel.
Les cheveux au vent.
On décapote les cheveux au vent. De suivre ses envies. Voilà.
Ça marche. Eh ben, merci Sylvie pour ce partage. Et j'espère que tout le monde va apprécier. Est-ce que je te laisse et t'as droit à 5 mots de la fin. 6, 7, comme tu veux.
Mais
la phrase, c'est toi.
J'ai déjà tout dit.
Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à tes auditeurs pour qu'ils restent et qu'ils continuent de t'écouter, qu'ils découvrent la V2 en début 2024
On en a déjà pas mal parlé tout à l'heure, mais déjà, j'aurais envie de leur dire merci. Alors, merci d'écouter. Merci pour les retours que j'ai, parce que dans un monde où tout va vite aujourd'hui et où la concurrence est très forte aussi dans tous les médias et dans tout ce qu'on peut consommer en fait en médias et en audio, notamment en podcast, avoir des gens qui m'écoutent et qui m'écrivent en plus spontanément, c'est que ça veut dire beaucoup, tu vois, pour moi. Et si je devais parler de la suite, je pense que ce sera une poursuite, que s'ils ont aimé Heureux et Surdoué jusqu'à présent, ils vont l'aimer encore plus, parce que ça va leur permettre peut-être de comprendre ou d'expérimenter des choses différemment et d'avoir un autre regard sur certaines choses de leur quotidien.
Ok, donc si vous avez aimé Heureux et Surdoué, vous allez adorer Heureux et Surdoué, la version 2024.
J'espère
et
bien.
Prenez bien soin de vous.
J'espère que moi, je vais adorer aussi.
Ça marche. Prenez bien soin de vous et à très vite.
Merci Sylvain, et prenez bien soin de vous, effectivement.
Bye bye.
Bye. On arrive à la fin de cet entretien assez particulier pour moi, et je reprends le micro de mon podcast pour vous remercier pour vos écoutes et pour vos messages.
Un grand merci aussi, bien sûr, à Sylvain d'avoir animé cet épisode atypique. Pour nous contacter, c'est facile. Vous trouverez toutes les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel enregistrement.